Bonjour Bruno Di Rosa. Donc,
Bonjour.
On se connaît déjà puisque tu as déjà travaillé à Friar en 2004 avec Erwan Mayo et Isabelle Arthuis. C'est vrai qu'on avait eu un très très beau texte. Et puis là à nouveau, donc Xavier Noiret-Thomet t'a invité pour son exposition personnelle et tu présentes deux œuvres. Avec notamment un texte et puis une lyre électrique. Donc j'aimerais d'abord te remercier d'être présent et puis d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que depuis 2004, tu exerces une sorte de fascination avec tes textes et puis on peut découvrir aujourd'hui une autre manière de s'approprier le verbe, le mot, puisque cette lyre électrique est là aussi pour témoigner de tout un pan de ton travail que nous ne connaissions pas encore. Et peut-être j'aimerais bien que tu t'exprimes peut-être sur la manière dont tu travailles les textes et ta manière, peut-être ton travail d'artiste en tant que tel avec...
Oui, alors le travail est d'abord d'écriture, mais comme j'ai fait les beaux-arts, évidemment j'ai des réflexes d'artiste. Disons que j'ai appris à faire des œuvres à l'école et parfois il me vient des sursauts comme ça, artistiques ou plastiques, et je ne me gêne pas pour les réaliser. Et c'est une manière pour moi de faire des livres, disons, quand je fais une lyre ou l'arbre généalogique de la mythologie qui est dans le magazine, c'est une manière pour moi de faire des livres autrement qu'avec des mots et d'une manière plus reposante, puisque je ne suis pas dans le vide de la page blanche, mais je suis avec de la matière et c'est plus reposant. Donc ça me soulage du travail d'écriture qui est toujours assez éprouvant. Et les œuvres plastiques... permettent de donner une image autre du livre, voilà, peut-être une image du livre, ou une autre manière d'aborder le livre, une autre manière pour celui qui est en face de voir le livre. Et le travail de l'écriture, c'est-à-dire les choses qui sont toujours en jeu dans l'écriture, les choses de fond, à savoir la patience qu'il faut quand on écrit, la difficulté, certaines formes, alors en l'occurrence la lyre ne ressemble pas du tout à une lyre ordinaire, enfin dans sa forme, c'est un Y. En tous les cas, c'est une forme en Y. Et si j'en suis venu à cette forme-là, c'est un mariage de l'envie d'avoir une lyre, puisque je m'étais tenu le raisonnement assez simple en me disant les poètes ont tous eu une lyre un jour, et que moi j'en avais pas, alors il fallait bien que j'en ai une, et dans le commerce il n'y en avait pas. Je n'ai pas trouvé à en acheter, alors je me suis dit je vais me la fabriquer, puisqu'on n'en vend pas. Et alors je me suis dit je vais fabriquer une lyre, mais alors comment on fabrique une lyre? Et puis en parallèle, je travaillais sur cette forme de Y, ou forme de lance-pierre. Et les deux choses se sont rejointes, et c'est ainsi que j'ai fait cette lyre en forme de Y. Disons que le Y, ou cette forme en forme de lance-pierre, à un moment donné, quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression que cette lettre disait tout ce que j'attends de l'écriture. Alors c'était très abstrait, je me disais, tiens, là, il y a tout. Mais alors c'est tout, j'en étais que là, j'arrivais pas à avancer au-delà de ce constat. Donc j'ai tourné autour, je l'ai sculpté sur plusieurs manières, cette forme-là, jusqu'à l'aboutissement de la lyre qui me paraît assez accompli dans la recherche de la forme. Et la généalogie de l'arbre est aussi la même forme, c'est-à-dire que ça part d'une source et ça se divise, ça se divise, ça se divise pour un arbre généalogique toujours. Bon bah là c'est le nœud de la division, c'est la première division. Après on peut en imaginer toujours d'autres évidemment. Et voilà, c'est comme ça. Et puis un lance-pierre... qui peut être un lance-mot, enfin une pierre, c'est pas forcément... donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette forme. Et puis ça lance des sons, enfin, les cordes sont placées où est placé l'élastique dans le lance-pierre, et ça lance des sons.
C'est une très belle manière de faire écho aussi au travail de Xavier, au travail de Michel François. C'est vrai qu'ici on a cette immense affiche de 180 fois 200 avec cet arbre, ce chêne.
Oui, alors cette belle branche.
Il y a ces ramifications infinies. Et c'est vrai qu'il y a ce côté organique qui est une sorte de retour à la nature. Et j'ai toujours été surprise de voir que dans tes textes, tu as quand même un lien à la nature qui est très très fort. Il y a une sensibilité et une manière aussi d'être très proche.
Disons que la Terre est importante.
Voilà, la Terre est,
la
très,
Terre
très
est importante, ainsi que le ciel. Et alors peut-être que le fond de la recherche, elle est dans ce rapport Enfin, ce qui motive le travail depuis 20 ans déjà, c'est le carnet bleu. Donc j'écris une page tous les jours depuis 20 ans, autant dire depuis toujours, à mon niveau, à moi. Et j'ai constaté au fil du temps que le jour. Enfin, j'en suis arrivé à ce constat que le présent avait un double statut, à la fois d'être passant, donc notre présent de tous les jours, mais d'être aussi éternel. Alors, j'ai l'impression quand on vit, ou peut-être quand on fait une œuvre, et en l'occurrence quand on écrit un texte, c'est toujours essayer d'être en relation entre un présent passant et un présent éternel. C'est-à-dire que moi, étant là en train d'écrire, j'ai l'impression que je suis là en train d'écrire en même temps que tous les écrivains ont toujours écrit, en même temps que moi, précisément à ce moment-là. Comme tous ceux qui viendront après sont déjà en train d'écrire avec moi à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a un présent éternel de l'écriture. Qui peut arriver à être contacté au moment même où le stylo ou le clavier, peu importe, chacun sa manière, enfin au moment même où on écrit, j'ai l'impression qu'on est perdu dans un présent éternel, c'est-à-dire pas un présent passant, on rejoint une éternité.
Mais il y a aussi un très beau, enfin, tu décris aussi le mouvement de manière très pointue, comme ça, et on le sent aussi dans le rythme. Enfin, il y a dans ton style, il y a aussi un rythme, un mouvement qui se crée.
Voilà, ben c'est la balance. Et puis il y a fatalement une recherche d'harmonie dans l'écriture, de séduction aussi. Et puis c'est le stylo qui entraîne le stylo, enfin l'écriture qui entraîne le stylo entraîne l'écriture. Enfin, il y a un lien rythmique qui se met en route, qui fait que le texte se fait tout seul. C'est un entraînement. Enfin, quand je fais un texte pour Xavier ou éventuellement pour Erwan et Isabelle. Je commence le texte, je sais absolument pas de quoi je vais parler. Enfin, je me jette dans le vide et puis ça prend ou ça prend pas. Ça prend pas ce jour, ça prendra le lendemain. Enfin, il arrive un moment où ça prend et voilà, le texte se cristallise à un moment donné. Bon, ensuite, il y a éventuellement un travail de ménage à faire, mais c'est le rythme qui met en route l'écriture. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un balancement dans la rédaction des phrases.
Il y a une très grande intériorité aussi. Il y a une manière.
Oui, ça se passe dedans. Oui. Faut arriver à être à la fois pas dedans et dehors, mais être dans le texte de Xavier. Je parle de la frange entre le jour et la nuit. Enfin, cet espace-là de frontière. Voilà, faut arriver à être sur le fil toujours entre une lumière et une nuit. Et c'est ça qu'il faut arriver à attraper. Et c'est sublime quand on est dedans.
En tout cas, un grand merci, quoi. C'est sublime, en tout cas, de pouvoir t'avoir avec nous.
Tout
Et
à
puis,
merci,
nous
oui.
allons ouvrir cette exposition dans quelques heures maintenant. Et ça va être un plaisir de pouvoir faire découvrir tous ces travaux au public. Merci encore.
Merci bien.
Merci.